tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'un salon semi-climatisé de Rosemont-Montréal. Pourquoi semi? Je sais pas, on dirait que les petites branches en métal de mon air climatisé acheté en 2013 sont tout pétées, sont un peu courbées. Et j'ai de la misère à réfrigérer l'appart, puis n'ayons pas peur des mots, il fait assez chaud, merci, par ici. Là, je viens d'éteindre le ventilateur que je m'étais mis sur la tête pour essayer de me refroidir. Mais, comme on dit dans le monde du show business, show must go on. Et ce sera ton podcast numéro, je sais pas, j'ai pas le compte, là, à un moment donné, je vais calculer pour approcher le millième épisode. Hier, il y avait un énorme party chez mon ami Jonathan Géria. Avant, j'ai été reçu chez Laurence Beaulieu. Elle aime ça entendre son nom. Et superbe repas, côte levée, blé d'Inde, petit hot dog. Après ça, chez Jonathan, c'était un party. Jonathan a une petite tendance à organiser un party à chaque année pour qu'on puisse tous voir les amis de l'école secondaire. Donc, on a bien rigolé. Et j'aimerais vous parler de quelque chose. Moi, là, je me suis dit, j'ai pas envie de parler de mes problèmes, mettons, à un ami ou à mes parents, parce qu'ils pourraient me juger. J'ai pas envie d'en parler à un psychologue, parce que ça coûte 100$, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler à vous, les auditeurs, de mes problèmes, parce que je trouve que vous avez une bonne oreille, une bonne écoute, mais surtout, vous pouvez pas répondre, c'est moi qui parle. L'alcoolisme et le fait de boire de l'alcool de façon répétée et excessive. Plus t'en prends, ça crée une tolérance et une dépendance. Donc, t'en prends toujours plus. Quels sont les signes qu'on est alcoolique? C'est l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité quand on n'en a pas. Tu sais. Puis quand on cesse d'en prendre ou la perte de contrôle. Moi, je vais vous parler de mon alcoolisme à moi. Moi, j'ai la chance d'être un alcoolique. Il y en avait dans ma famille, c'est héréditaire. Mais je peux être un mois sans prendre d'alcool. Tout va très bien, je prends pas une goutte. Je peux aller au restaurant tout seul, prendre deux bières, aucun problème. Mais si je suis dans un party avec d'autres gens qui ont tendance à lever le coude, qu'on rigole puis tout, c'est dangereux que je boive le bord au complet, que je laisse rien. Je pourrais finir quasiment un fond de bière, tu sais, si le party est pogné. J'ai cette tendance-là, j'en suis conscient. Il y a plusieurs années, j'ai arrêté de boire pendant 2 ans pour essayer de réduire cette tendance-là. Et je vous dirais, malheureusement, que ça part jamais. C'est un combat de tous les jours, mais maintenant, je l'ai vu un peu mieux. Tu sais, j'attends le samedi soir pour prendre de l'alcool. Un autre truc, c'est de prendre de l'alcool peut-être le plus tard possible. Tu sais que tu vas veiller jusqu'à 3 heures du matin au diable vert, mettons. Commence pas à boire avec ton souper chez vous, puis pendant le Canadien, tu sais, reste sur le Pepsi Diète. puis prends un verre quand tu arrives avec tes amis à 10h45. Comme ça, ben, il reste juste 4 heures, tu sais, puis tu vas contrôler un peu mieux tes affaires. C'était mon conseil pour le Québec, pour les gens à la maison, d'oser. Comme si vous n'avez pas de contrôle avec l'alcool, buvez le plus tard possible. Ne commencez pas à boire à midi autour de la piscine parce que vous allez clairement pas vous rendre à 3 heures du matin. Sinon, dans l'actualité, j'ai le droit de parler du Canadien de Montréal. Une minute dans mon intro, c'est mon podcast. Je trouve génial que Kent Hughes, le directeur général du Canadien, il passe Carey Price, sa liste des blessés, ramasse le 10 millions, dit aux Flames de Calgary, « Donne-moi un choix de première ronde, je vais avaler ton mauvais contrat à Monaghan, puis je m'arrangerai, tu sais, j'ai de l'argent. » Fait que là, je trouve ça incroyable que le lousse sur le plafond salarial devienne un argument de vente pour obtenir des choix de première ronde, parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais si on est chanceux, un moment donné, un choix de première ronde va éclore. On va avoir de la profondeur parce qu'on a eu beaucoup de choix. Et d'ici 15 ou 30 ans, le Canadien de Montréal devrait être une meilleure équipe et devrait gagner des matchs. C'était ma chronique. OK. J'ai fait une chronique sur Usyk et Joshua au 91.9 Sport. Et là, mais je dois admettre, là, je ne vais pas me vanter, mais je vais le faire. Je crois qu'à cause que je suis passionné de boxe, à cause que je suis curieux, parce que je suis bon pour faire des petites blagues, tu sais, toutefois, je vais être sérieux, mais vous allez sentir un sourire dans la voix. Là, j'arrive avec une petite blague. Je pense humblement que je suis le meilleur chroniqueur boxe de l'histoire du Québec. Moi, je pense qu'à ma mort, ils vont me nommer une statue ou quelque chose parce qu'il me reste encore 40 ans, je dirais, à chroniquer ou à faire le podcast. Des fois, ce podcast-ci, je vais vous le dire, je vous botche un peu, là, je ne suis pas super préparé. Mais là, quand je suis allé au 91.9, au haut que je suis arrivé préparé avec mon bon ami Maxime Trouman. Donc, y aura-t-il une association entre le 91.9 Sport et le podcast Laurence écoute parler? Pour le moment, non. J'ai beaucoup de misère à rejoindre le directeur de la programmation qui ne me répond pas. Et ma technique, c'est l'acharnement. Lui, il ne me répond pas. Puis moi, je continue à y écrire. Puis là, je me dis, un jour, il va peut-être répondre. Fait que c'était ton introduction de ton podcast préféré, Laurence écoute parler.
Que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas? » Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à vivre.
Hier, en Arabie Saoudite, à Jeddah, une ville sur la mer Rouge, je pense. Il me semble que c'est ça. Si j'ai bien lu. Alexander Usyk a vaincu Anthony Joshua dans un combat, j'aurais tendance à vous dire, incroyable. Pourquoi? Parce que c'est tellement un beau mélange des styles. Je ne l'ai pas dit sur au 91.9, t'sais, mais je vais vous le dire. Gaucher, droitier. Un noir contre un blanc. Ça, c'est Régis Lévesque qui m'a dit de dire ça. Après ça, une brute de 6 pieds 5, 260 livres. Un petit de 6 pieds, 3, 2, 20, surdoué. La brute contre le surdoué. Les deux médaillés d'or olympiques. Je vous le dis, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de mieux. Genre. Puis là, hier, on a eu un combat exceptionnel où Usyk s'en allait pour gagner une décision. Et au 9e, il s'est fait atteindre. Joshua a eu du succès, a pu finir. Il swingait dessus à deux mains. Usyk lui-même dit qu'il a été très inquiet pendant le 9e. Il ne comprenait plus ce qui allait arriver. Et là, tenez-vous bien. Là. Après le 9e, là, Usyk il dit qu'il a vu dans les yeux de Joshua au 8e que Joshua est en train de voler, de gagner le combat. Au 9e, il s'est fait brasser là, comme une canne de peinture chez Sico. Okay? C'était incroyable comment Joshua était bon. au 9e. Et là, là, Usyk, il revient au 10e, là, puis il fait le round de sa vie, swing à deux mains, le momentum change. C'était, ce combat-là, c'était grandiose. Et pour continuer à ce que Usyk va rallier les derniers rounds et va l'emporter, OK? Mais je ne veux pas m'en prendre à Anthony Joshua qui a été déplaisant à l'entrevue d'après-match avec le micro. Je pense que Joshua, il est pris dans son carcan de bon gars, entre parenthèses, puis il n'arrive pas à tu sais, des fois, quand tu es pris comme étant le bon gars, comme moi je le sais, parce que je suis vraiment un très bon gars, mais des fois, tu es un bon gars, mais tu vas te fâcher ou tu vas dépasser les limites, puis là, tu fais comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, je suis hors personnage, là, il faut que je revienne un bon gars, mais, tu sais, mais là, j'étais fâché, fait que j'ai peut-être dit des mots qui dépassaient ma parole ou des mots qui ne sont pas dans mon cadre habituel du bon gars. Mais Joshua a vraiment un peu pété les plombs après. Là. C'était pas chic, là, avec son micro dans les mains, puis là, il commence à parler. Moi, je boxe depuis que j'ai 5 ans, puis les juges, puis tout ça. Pas chic, mais c'est pas chic, là. Mais regarde bien, je t'en veux pas. Anthony. Puis je vais même vous dire une autre affaire. Je crois que Anthony Joshua est vraiment très bon et qu'il va battre tout le monde dans la division. Juste qu'il ne peut pas battre Usyk puis il ne peut pas battre Fury. Mais tu sais, il va redevenir une troisième fois champion du monde. On va lui trouver un titre. Probablement que Usyk va abandonner la IBF. Du côté de Usyk, c'était parfait. C'était parfait. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut Tyson Fury, mais là, tu sais, Tyson Fury, c'est toujours la même maudite patente de Tyson Fury qui m'énerve. Je suis en retraite, je suis pas en retraite, je vais revenir, je reviendrai pas, je vais boxer gratuit pour mon pays, je veux 150 millions, tu sais. Je déteste, c'est un peu violent, là, mais je déteste Tyson Fury, puis la façon de gérer sa carrière qui finit plus. Donc, on a vraiment eu un bon gala. C'était fou, c'était cool hier après-midi. On avait plein de combats, ça revolait. La sous-carte était parfaite. Maudit que j'étais heureux hier. J'étais bien heureux, les amis. En sous-carte, je vous conseille d'écouter le podcast 120 secondes pour tout connaître sur la boxe féminine. Abonnez-vous à 120 secondes sur les médias sociaux. Ramla Ali a gagné au premier round. Andrew Tabiti l'a emporté aussi. Badou Jack, décision, split décision. Badou, il commence à être sa fin, je vais vous le dire. Philippe Ergovic et Zay Lezang. Zay Lezang, le combat de sa vie, il est sorti le feu entre les dents, le couteau brûlant dans les mains. Incroyable, Zay Lezang. Je croyais que ça en allait à l'abattoir. Perd une décision serrée dans laquelle il fait exploser sa valeur. Tout le monde veut aller l'affronter. Il y en a qui veulent aller l'affronter en Chine pour battre des records de cote d'écoute. Zay Lezang, dans la défaite, est devenu crédible. Imaginez, il a commencé sa journée non crédible. Il a perdu, puis il est devenu crédible. Je souhaite qu'un jour, on trouve un Zay Lezang pour Arslanbek Makhmoudov en pleine télévision. Imaginez en sous-carte, mettons, de Joshua. Mettons Joshua Wilder en décembre. Ou Usyk Fury en janvier. Puis là, tu nous mets Makhmoudov Zhang. Imaginez, là, party serait pris. On pourrait passer à la prochaine étape. Donc, Philippe Ergovic devient aspirant obligatoire à la IBF. Reste à voir ce que Usyk fera. Est-ce qu'il va abandonner le titre? Est-ce qu'il va affronter Ergovic? Ou est-ce qu'il va aller direct sur Tyson Fury en unification à suivre? Moi, je vais même vous faire une petite boutade. Je ne serais pas surpris peut-être qu'un jour, on ait un Usyk contre Rivas pour le titre 225 pour simplement que Usyk soit champion dans une autre catégorie de poids. Puis, à la limite, il pourrait relâcher le titre tout de suite. Sinon, on a vu Callum Smith qui a dévissé Mathieu Boderlic, qui ne pouvait pas gérer la puissance puis l'aspect physique de Callum Smith. J'étais triste pour notre bon ami français. J'espère qu'il va se relever. J'espère qu'il va continuer. C'est un chic type. Kim Clavel nous en a parlé en bien. C'est disponible sur ta chaîne de podcast préférée. Laurence écoute parler. Il s'est entraîné au Québec. Donc, superbe carte sur DAZN hier. Enfin, DAZN qui ne m'a pas demandé un 25$ de plus. Chez AI, ils veulent tout le temps prendre tout mon argent d'Azon. Mais c'était vraiment du très grand art, une bonne sous-carte. J'étais hier, là, j'écoutais ça, puis je me suis dit, c'est peut-être ça le bonheur. T'écoutes la boxe, sur ton laptop, tu manges de l'autre bord. Mais là, j'écoutais ça sur mon téléphone. Je mangeais avec mes amis de l'autre bord. Les filles m'ont pas trop achalé parce que j'écoutais la boxe pendant qu'ils jasaient de leurs affaires de filles. Ça jasait de maquillage pendant que j'écoutais la boxe. Puis personne m'a trop achalé. Puis j'ai eu réellement une très belle soirée. Dans les autres... on va faire ma petite tournée internationale. J'ai peut-être moins de nouvelles locales cette semaine. J'ai des petites idées dans ma tête, mais on les fera plus tard, mes petites idées. Hier, il y avait d'autres galas. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Je suis un peu mêlé. Il y avait le bon vieux Sergey Lipinette qui il boxait hier. Il a remplacé Adrien Bruneur. Il a des problèmes. C'est triste, mais il y a des problèmes entre les deux oreilles. Fait qu'Adrien Bruneur s'était sorti de son gala hier. Il aurait dû faire un pay-per-view. Mais pas un pay-per-view. Il aurait dû être à la télé publique pour affronter Figueroa. Il s'est sorti de là et finalement, il a perdu contre Sergey Lipinette. Lipinette, solide 140 livres, pas assez bon pour être champion du monde, mais assez bon pour battre des Figueroa à une semaine d'avis. Sinon, en Suède, il y a Marianne Alborg, qui est l'aspirante numéro 1 au titre de Marie-Ève Dicker, qui a passé le KO à Katarina Vistika. Ça, j'imagine que ça vous énerve pas trop à la maison. Emmanuel Navarrete a passé le KO à Eduardo Baez. Giovanni Santillan, qui est un aspirant 147, qui semble avoir touché une certaine limite, lui a passé le KO à Julio Luna. Il a gagné au juge contre Julio Luna Avila. Et sinon, le petit-fils de Mohamed Ali, lui aussi, a gagné par KO. Antonio Merilaez, qui est un méga prospect de 6 pieds 9 chez Top Rank. J'ai hâte de voir si un jour on va frotter les méga prospects de Top Rank avec les méga prospects de Eye of the Tiger. Ça, on verra. Donc, comme je vous avais dit, Alberto Puello a battu Batyrzhan Akhmedov. Batyrzhan Akhmedov est souvent à Montréal avec ses amis kazakhs, surtout à l'époque. Là, on le voit moins. Brandon Lee a battu au juge Will Madeira, qui est un des boxeurs les plus toughs que j'ai vu. Un gars qui était avec Eye of the Tiger il y a quelques années. Sinon, comme je vous ai dit, Sergey Lipinette, un aspirant mondial, l'a emporté. Voilà qui fait le tour des combats du week-end. Et comme je n'ai pas envie de mettre de publicité, à moins que je vous en fasse une maison, mais ça ne me tente pas. Je vais vous faire une publicité. Mais pour vos besoins en sirop d'érable, faites confiance aux fermes Saint-Martin. Les fermes Saint-Martin, ça goûte bon parce que c'est produit par des gens d'ici. Donc, les nouvelles de la semaine. Eddie Hearn a été assez violent sur Anthony Joshua. Il a dit, franchement... Non, il a critiqué Tyson Fury. Tu sais, Tyson Fury, il est chez eux, il mange des ringolos, puis après ça, il dit, ouais, c'était plate, Joshua Usyk, ouais, c'était pas terrible. Hey, t'es chez vous à manger des ringolos, veux-tu bien être poli avec ceux qui nous ont donné un des meilleurs combats cette année? Alors, c'était ma chronique internationale. Sinon, comme je vous l'ai dit, Sergey Lipinette redevient un aspirant mondial. On a appris cette semaine qu'il y avait la date, je pense c'est début septembre, un appel d'offres entre Joshua Boitier et Jean Pascal. Si c'était triste, moi j'étais triste pour vrai quand j'ai vu Joshua pleurer après le combat. Il y a quelque chose de malsain avec la défaite, tu sais. Joshua fait tellement une grande performance, on devrait le mettre sur un char allégorique puis l'applaudir aujourd'hui. Au lieu de ça, il est en train de pleurer à la conférence d'après-match, mais je suis triste pour Joshua parce que j'ai un cœur. Puis mon cœur a mal présentement parce que le gars fait une grande performance. Il arrive à court au juge contre un boxeur exceptionnel. Puis il pleure. Moi, je me promènerais la tête haute puis je dirais, mais j'ai tout donné, je suis fier. Puis je vais essayer de m'améliorer. J'ai de la peine pour Joshua. Si vous le connaissez, là, dites-lui de m'appeler. Je vais lui faire un petit speech de motivation. Il y a eu un round de 4 minutes entre Badou Jack et Ron Popeye Rivera. Je sais pas pourquoi. Le timekeeper s'est enfargé dans son petit marteau, peut-être. Derek Chisora a dit qu'il aimerait se rendre en Chine pour affronter Zai Le Zhang si... Tyson Fury continue à niaiser un peu puis qu'il veut pas vraiment faire la trilogie qu'on entend parler depuis plusieurs temps. Ramla Ali, surveillez-la, était en Arabie Saoudite. Je pense que c'est une Somalienne. Là. J'espère que je ne me trompe pas. Signée par Anthony Joshua. Elle a déjà été mannequin. Cette fille-là, ça va devenir une superstar par son histoire puis par la force des choses. Josh Taylor a abandonné son titre de la IBF. Vous voyez, quand je sais, là, je vais être fatiguant, mais quand je dis Marie-Ève Dicker, un jour, elle va être obligée de défendre son titre de la IBF contre Marie Spencer, imaginez Josh Taylor, qui est 100 fois plus populaire, 100 fois plus influent, a été obligé d'abandonner son titre de la IBF, puis maintenant, il va être seulement champion de la WBO. Parce que la IBF, le gosset, la IBF, il dit, ben, si tu affrontes Catéral, ça veut dire que tu donnes pas de chance à Jeremiah Ponce, qui est l'aspirant obligatoire. Donc, il faut que tu nous remettes la ceinture, puis nous, on va organiser un combat entre Ponce et Mathias pour le titre. Mathias, qu'on avait vu contre Batir Jukanbayev. Fait que je vous le dis, personne ne me croit, je passe pour un fatigant, j'ai le goût de lancer mon téléphone dans le mur puis de publier le podcast comme ça. Mais un matin, Marie-Ève Dicker, elle va être obligée de prendre une décision avec son titre. Puis sinon, ils vont organiser Marianne Alborg contre Marie Spencer à Shawinigan le 17 décembre. Je passe pour un maudit fou. Mais un jour, quand je vais être mort, j'ai l'impression qu'on va me reconnaître à ma juste valeur et on va dire ce garçon était un génie, mais on est passé à côté. Bob Arum veut organiser Devin Haney contre Vasily Lomachenko. Et voilà qui... Deontay Wilder, lui, va affronter Robert Helenius. Il a choisi la date du 15 octobre. Soyons honnêtes, pour le bien de la boxe, je veux voir Deontay Wilder garrocher des bombes en pas propre sur des adversaires. Et je m'en allais dire en blesser gravement. Non, je veux juste qu'il nargue des adversaires. Je veux pas qu'il blesse personne. Mais j'ai jamais vu quelqu'un promener autant de puissance dans ses mains que Deontay Wilder. Tout le monde a repris cette semaine que Arthur Beterbiev était blessé. Puis comme on dirait quasiment que c'était une fin de carrière tellement que c'était violent dans les médias. Et ça m'a fait rire parce que tout le monde a fait comme « OK, Beterbiev, c'est écrit qu'il est blessé sur un site. On reprend. Beterbiev est blessé, pas de combat. Beterbiev est blessé, pas de combat. » Puis là, ben, personne n'a fait « Ah, oh, je vais appeler le cheval pour savoir la gravité de sa blessure. » Fait que le journaliste du Journal de Montréal, je me rappelle pas son nom, il prend son téléphone, il appelle Marc Ramsey. Marc Ramsey dit « Oui, oui, c'est anodin. Là. On va reculer le combat d'un mois. Probablement se battre en novembre. » Faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Là. Il n'est pas dans le plâtre. Fait que c'était juste une petite patente de rien, une petite blessure à l'entraînement. On recule le combat d'un mois. Hey, je te le dis, la manière que j'ai vu ça sur Internet, là, il était en chaise roulante quasiment, tu sais. Luis Ortiz n'est pas inquiet par la rapidité de Andy Ruiz Jr., un autre combat. On va avoir des combats, je vous le dis. S'il y en a qui veulent venir écouter ça dans ma cuisine, là, je peux vous inviter. Le party est pogné ici. Là. Il y a beaucoup de bons combats. T'sais, Wilder, Helenius, tu veux voir ça. Ortiz, Andy Ruiz, tu veux voir ça. Ça revole. Même Makhmoudov contre Takam, tu veux voir ça. Canelo contre Golovkin. Je veux dire, la boxe n'est peut-être pas populaire, là, mais on va triper entre nous autres. Les gens qui écoutent le podcast. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Anthony Joshua, moyen salaud, il a pitché le titre de la WBA sur une table. Il était vraiment pas content. Ce qu'il comprend pas, c'est qu'ils vont y redonner. Ils vont en réparer la ceinture au pays. Il a pogné la ceinture, puis il a pitché sur une table les ceintures de Alexander Usyk. Le gars n'était pas trop de bonne humeur. Voilà qui fait le tour de ta grande chronique. international. Et là, on va trouver quelque chose. Je vais trouver un sujet. Là, Vasily Lomachenko va affronter Jermaine Ortiz. J'avoue que j'ai plus rien à vous dire, puis il reste 15 minutes. On va faire jouer de la publicité.
Beterbiev, Artur Beterbiev est probablement le meilleur boxeur au monde. Au niveau technique, écoute, c'est un bijou. C'est un charme de voir cet athlète-là qui vit à Montréal. Il est tchétchène d'origine, musulman, pratiquant.
Bon, on va faire un survol de l'actualité québécoise. Il se passe présentement absolument rien. On va avoir des galas au Casino de Montréal, présentés par Top Rank, en collaboration avec le groupe Yvon Michel. Pas le groupe Yvon Michel, Eye of the Tiger. Ce qui est intéressant, c'est que sur RDS, il fait toujours des petites vidéos, Yvon Michel. Puis il a dit, moi aussi... Il a dit « Je suis très content pour Eye of the Tiger, ça va les aider. » Yvon, quand il est en mode chroniqueur, il est capable de dire des gentillesses sur Eye of the Tiger. Ça ne le dérange pas, il est chroniqueur. Fait que là, deux, trois petites gentillesses. Il dit ça va être bon, ça va amener des meilleurs adversaires. Mais là, après ça, il a comme... Puis il a bien fait, là. Il a dit « Ouais, ouais, mais en passant, moi aussi, j'étais avec Top Rank, tu sais, on a Oscar Rivas, on a Hélader Alvarez, on a de l'intérêt pour Kim Clavel. » Fait que j'ai hâte de voir parce que, je vais vous dire la date, là, présentement, on est... Là, puis ça, avant, je pognais un air, là, j'étais un peu plus calme. On est à 20 jours du gala au Casino de Montréal. Marie Spencer, pas d'adversaire. Léla Beaudoin, on n'a pas d'adversaire. Je sais que Luis Santana, ils ont nommé son adversaire, mais ils avertissent pas BoxRec, eux autres, le nom des adversaires. Mais vendredi, le 9 septembre, on a Mbili contre DeAndre Ware, Simon Kane contre Newfell Huata, Spencer, Santana, Beaudoin, Duval, Christopher Guerrero. La semaine d'après, ça va être un bon début de mois. Ça va me permettre d'être capable de vous faire un podcast de 45 minutes sans trop chercher. La semaine d'après, on a Jean Gardy-François, Hamza Kabaz, Martine Vallière-Bisson, Alex Gaumont, Thomas Chabot, puis on a Butler puis Makhmouda. Fait qu'ils nous ont vraiment mis deux cartes qui ont bien du bon sens. J'ai pas le droit de vous le dire, mais quand je parle pas fort de même, c'est un secret entre nous deux. Si il y a rien qui change, OK? Mathieu Germain va se battre pour un titre... mineur, mais qui pourrait le rentrer dans les classements. Et là, j'ai vraiment pas le droit de vous le dire, là, mais je vais baisser le ton. Il affronterait Mathieu Andrés Gutiérrez, un boxeur de 36-2 avec une bonne fiche, puis tout. Je vous le dis, Mathieu Germain, vraiment un combat à la croisée des chemins que j'avais pas le droit de vous dire. J'espère que je ne me ramasserai pas avec la police ici chez nous. Dans la même soirée, le 6 octobre, on aurait Pellerin, Hull, Caroline Vert, Éric Basseran, Derek Pomerleau. Marie-Pierre Hull va être une terreur chez les 140 livres, je vous l'aurais dit. Elle est forte. Marie-Pierre Hull est tellement forte que je vais vous conter une anecdote. Elle est tellement forte que c'est Philippe Farley, son conjoint, qui vient toujours lui ouvrir la porte de la voiture parce que Philippe a peur qu'elle arrache la porte. Ça vous donne ça une idée? Puis là, elle descend chez les 140 livres. Ça va être la fille la plus forte physiquement des 140 livres. Ça va être spectaculaire. On lui souhaite... Caroline Vert, écoute, ça va bien. Donc aussi, on va avoir des nouvelles éventuellement pour un gala... en Colombie. J'imagine que Marie-Ève Dicker va se battre. Ils nous ont annoncé que Adam Bradwood allait affronter Alexis Barrière au début du mois de novembre. On va avoir Tom Vautour contre Alex Roberge. Petar Gavrilovic va affronter Jean-Michel Poulain. Et là, comptez sur moi. Hein. Ça, je vous avertis. Québécois contre Québécois. Je vais faire des 10 minutes de face à face sur les internets. Je vais vous passer les audios ici. OK? Si vous me donnez Québécois contre Québécois, je vous promets qu'on va faire un show incroyable avec ça. On va faire des duels. Ça va revoler. Donc, on a des galas. Ça repart le 9 septembre, le 16 septembre, le 6 octobre. Peut-être en Colombie. Début novembre avec Pellerin. Il y a plusieurs dates de réservées avec Eye of the Tiger. Il y a Gatineau en novembre ou en décembre. Il y a Shawinigan en décembre. Donc, ça va revoler. Vous comptez sur moi, là. Je suis plus prêt que jamais. Consultez. Faire de la pub. Je vais vous faire un podcast de 32 minutes. J'ai rien à dire. Puis, allez voir boxingtownquebec.ca. Noé Cloutier est complètement en feu. Mon journaliste vedette. Pour vrai, j'étais l'idole de Noé. Puis, c'est Noé qui est rendu mon idole. Tu sais, on en est là dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de même. Noé est devenu mon idole. Suivez Noé Cloutier, abonnez-vous à ses médias sociaux. Allez voir, vous dites « Hey Laurent, il fait juste un podcast de 30 minutes. » Ben oui, mais allez voir mon entrevue avec Kim Clavel qui traîne sur Internet. Allez voir mes vieux podcasts, je sais pas, allez voir ma chaîne YouTube. Cette semaine, je le sens moins. On peut pas tout le temps être un feu roulant quand on a un podcast. Puis profitez du dernier 15 minutes que je vous ai pas fait, mais pour parler à un ami ou dites « Vous dites à votre mère que vous l'aimez. C'était le podcast numéro 146, je crois, le moins long de l'histoire. Je reviendrai plus fort la semaine prochaine.
Beterbiev, Arthur Beterbiev,
oui,
est probablement le meilleur boxeur au monde. Au niveau technique, écoute, c'est un bijou. C'est un charme de voir cet athlète-là. Qui vit à Montréal. Il est tchétchène d'origine, musulman, pratiquant, et un boxeur unique, un vrai spartiate.